Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, le EDN référentiel de psychiatrie et addictologie. Dans sa 4e édition conforme à la RDC, est un ouvrage collectif institutionnel destiné avant tout aux étudiants du DEFASAM préparant les épreuves nationales françaises. Publié en 2024 par les presses universitaires, François Rabelais, il réunit les domaines de la psychiatrie de la personne adulte, de la psychiatrie de la personne enfant et adolescente, ainsi que de la médecine des addictions. Sa fonction est moins de proposer une lecture théorique libre que de fournir un cadre de révision structuré, aligné sur les attendus du programme. Le livre organise les connaissances selon deux niveaux, le rang A, socle nécessaire pour tout futur médecin, et le rang B, niveau requis pour les étudiants se dirigeant vers la spécialité. Cette hiérarchisation, associée à une présentation annoncée comme claire et synthétique, fait de ce référentiel un outil de cours, de consolidation et de contrôle des acquis. Il couvre ainsi un champ clinique particulièrement vaste où sémiologie, diagnostic, prise en charge et enjeux de santé publique se croisent. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une architecture par rang A et rang B adaptée aux exigences de la R2C. La caractéristique pédagogique centrale du référentiel est la distinction entre rang A et rang B. Le rang A regroupe les savoirs que chaque médecin doit maîtriser, quelle que soit sa future discipline, repérage des manifestations psychiatriques importantes, compréhension des situations cliniques fréquentes, orientation du patient et principes généraux de prise en charge. Le rang B approfondit les connaissances attendues de celles et ceux qui choisissent la psychiatrie dès le début de leur internat. Cette organisation répond à un problème concret de préparation, un même domaine contient des éléments indispensables à tous et des éléments plus spécialisés, qui ne doivent ni être confondus ni révisés avec la même priorité. Le classement permet donc de construire un travail progressif, en sécurisant le socle avant de poursuivre vers un niveau plus détaillé. Dans le contexte de la R2C, cette logique aide aussi à relier le contenu aux objectifs évaluables plutôt qu'à accumuler des informations sans ordre. Le référentiel se distingue ainsi de manuels purement descriptifs par sa vocation de sélection et de hiérarchisation. Il ne remplace pas le raisonnement clinique en situation réelle, mais donne une cartographie explicite de ce qui doit être connu et du niveau auquel cela doit être mobilisé. Deuxièmement, la réunion de la psychiatrie adulte, de la pédopsychiatrie et de la médecine des addictions. Le volume rassemble trois champs souvent étudiés séparément: psychiatrie de la personne adulte, psychiatrie de la personne enfant et adolescente et addictologie. Ce choix reflète la continuité des enjeux de santé mentale à travers les âges, tout en préservant les spécificités propres au développement et aux conduites addictives. Chez la personne enfant ou adolescente, la lecture clinique ne peut pas être simplement calquée sur celle de la personne adulte, car les manifestations, le contexte familial, scolaire et développemental modifient le repérage comme la prise en charge. L'inclusion de ce domaine dans le même référentiel rappelle donc la nécessité de raisonner selon le stade de vie. La place accordée aux addictions est tout aussi structurante. Ces situations concernent des substances ou des comportements, croisent fréquemment la souffrance psychique et exigent une approche qui ne réduise pas la personne à sa consommation. En réunissant ces contenus, le livre favorise une vision transversale. Les symptômes, les vulnérabilités, les comorbidités et les parcours de soins doivent être envisagés dans leur contexte. Pour les étudiants, le bénéfice pratique est de disposer dans un seul support des repères nécessaires pour aborder des situations souvent intriquées, sans dissocier artificiellement santé mentale et addictologie. Troisièmement, la sémiologie comme point de départ du raisonnement psychiatrique. La participation de structures universitaires dédiées à la psychiatrie et à son enseignement indique une ambition de référence pour la formation clinique. Dans une discipline où les examens complémentaires ne suffisent pas à eux seuls à établir la compréhension de toutes les situations, la sémiologie occupe une place décisive. Elle permet de décrire avec rigueur les plaintes, les comportements, les émotions, les pensées et leur retentissement fonctionnel, avant toute conclusion diagnostique hâtive. Un référentiel de préparation ne se limite donc pas à juxtaposer des catégories de troubles, il doit aider à reconnaître des présentations cliniques, à distinguer les signes utiles et à les replacer dans une histoire, un contexte et une évolution. Cette exigence est particulièrement importante pour éviter deux erreurs inverses: banaliser une souffrance qui nécessite une évaluation, ou attribuer trop vite un symptôme à une étiquette unique. La valeur du cadre référentiel réside dans la standardisation des connaissances essentielles, pas dans une automatisation du jugement. Le lecteur est conduit à apprendre un vocabulaire clinique commun et des repères organisés, qui facilite ensuite la communication entre professionnels. Pour les épreuves comme pour les stages, cette base sémiologique rend plus solide le passage entre connaissances académiques, entretiens cliniques et décisions initiales de soins. Quatrièmement, un support de révision conçu pour apprendre, entraîner et se contrôler. Les descriptions éditoriales présentent explicitement cet ouvrage comme un instrument de apprentissage, de entraînement et de auto-évaluation. Cette triple fonction est cohérente avec les contraintes du second cycle médical. Apprendre suppose de disposer de contenus fiables et ordonnés. S'entraîner suppose de pouvoir retrouver rapidement les éléments utiles pour traiter une situation ou vérifier un raisonnement. Se contrôler suppose enfin que la structure du livre rende visibles les lacunes, notamment grâce au découpage par objectif et par niveau de rang. Le format de référentiel favorise ce travail itératif, une première lecture sert à construire les repères. Les retours ultérieurs servent à consolider les priorités et à préciser les zones moins maîtrisées. La présentation annoncée comme ergonomique, claire et synthétique, doit être comprise dans cette perspective de consultation répétée, plutôt que comme une simplification du contenu clinique. La synthèse est utile lorsqu'elle conserve les distinctions nécessaires entre signes, hypothèses, orientations et principes de prise en charge. Pour autant, un tel livre ne peut suffire isolément à former la compétence relationnelle et décisionnelle du futur médecin. Il gagne à être associé aux stages, aux recommandations actualisées et aux exercices cliniques. Sa force spécifique réside dans la structuration du savoir à réviser, pas dans le remplacement de la supervision clinique ou de la rencontre avec les patients. En dernier lieu, une référence collective et actualisée plutôt que le point de vue d'un seul auteur, cette quatrième édition est portée par le Collège national des universitaires de psychiatrie. Une association consacrée à la sémiologie psychiatrique et le Collège national des enseignants en addictologie. Cette origine collective importe pour un ouvrage destiné à un programme national. Elle vise à proposer un langage d'enseignement partagé et des contenus cohérents avec les attendus de la R2C, plutôt qu'une interprétation personnelle de la discipline. La révision complète annoncée pour cette édition est également importante dans des domaines où les classifications, les recommandations, les stratégies de soins et les priorités de santé publique peuvent évoluer. Le lecteur doit néanmoins garder une distinction essentielle, un référentiel constitue une base pédagogique organisée à une date donnée. Alors que la pratique exige de vérifier les recommandations les plus récentes et de tenir compte de la situation singulière de chaque patient. Le statut institutionnel de ce livre lui donne surtout une valeur de cadrage pour les étudiants français. Il est particulièrement pertinent pour identifier les connaissances attendues au DEFACEM et préparer une entrée en internat. Mais il ne prétend pas être une encyclopédie exhaustive de la recherche psychiatrique. Son utilité tient à cet équilibre entre autorité collective, actualisation programmatique et orientation pratique vers les objectifs de formation. En conclusion, le EDN référentiel de psychiatrie et addictologie convient prioritairement aux étudiants du DEFACEM qui préparent la R2C et cherchent un support directement articulé aux objectifs nationaux. Il sera aussi utile aux internes débutants en psychiatrie, ainsi qu'aux étudiants désirant consolider les bases nécessaires pour reconnaître et orienter les situations de santé mentale et de conduite addictive dans toute pratique médicale. Son principal bénéfice est de rendre un champ très étendu plus révisable grâce au classement explicite entre rang A et rang B. Cette distinction aide à gérer les priorités sans confondre les connaissances transversales nécessaires à tous les médecins et les approfondissements propres à la spécialité. Le regroupement de la psychiatrie adulte, de la psychiatrie de la personne enfant et adolescente et de addictologie constitue un second avantage pratique, il favorise une approche moins fragmentée des parcours et des vulnérabilités par rapport à un traité spécialisé. Souvent plus détaillé mais moins directement orienté vers le programme, cet ouvrage se démarque par son positionnement pédagogique institutionnel et par sa visée de préparation, entraînement et auto-évaluation. Par rapport à des fiches très condensées, il offre un cadre plus officiel et plus complet. Il doit être lu comme une colonne vertébrale de travail, complétée par les stages, les recommandations à jour et la réflexion clinique. Sa valeur repose donc sur la clarté de son périmètre, la légitimité collective de sa conception et son adéquation explicite aux exigences de la formation médicale française. Si vous souhaitez soutenir Collège National Universitaire des Enseignants DET 9217 Addictologie, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.